Et comment que nous sommes là? Nous sommes en cuisine et à table, vous le savez, jusqu'à midi et demi sur Europe 1. Bienvenue, si vous nous rejoignez, chers auditeurs, toujours avec notre chef bistronome Yves Candebord et monsieur vin Olivier Pouls, entre autres, les fidèles, les historiques de la table des bons vivants.
Oui.
On vous emmène à Marseille ce matin, chers auditeurs. Tiens, Yves, Olivier, un goût pour définir Marseille. Vous diriez quoi, vous, Yves?
Alors, moi, vous me ramenez à la maison maintenant, attention, Laurent.
Mais oui, parce que vous êtes dans le sud.
Un goût, c'est l'atmosphère, c'est le sourire, c'est la façon de parler. Dès qu'on arrive à Marseille, il se passe quelque chose.
Oui, mais ça, c'est un sentiment. Mais c'est un sentiment, un goût, quelque chose.
Le goût, alors, je suis un amoureux du quartier de la rue d'Aubagne. Voilà, c'est les épices. C'est voilà. Toutes les épices du Maghreb.
Goût pour définir Marseille, monsieur Pouls.
Les frites marseillaises, les panisses.
Oui.
Qu'on mange comme ça, au déboté, sur le vieux port. On s'en prend une petite portion et puis on les grignote en regardant les bateaux.
Ça y est. Nous y sommes.
Et vous, ça nous fait rêver quand même.
Ah, bah, moi, j'adore. Chers auditeurs,
on a dit sur le
groupe Facebook d'Europe 1, la table des bons vivants. Alors, pour plonger au cœur de Marseille et de sa cuisine, nous recevons Ezekiel Zera, journaliste gastronomique et créateur des médias Pomelo et Croque Marseille. Il est l'auteur de Marseille, un jour sans fin aux éditions Hachette, un très très beau livre. Bonjour Ezekiel.
Bonjour Laurent.
Merci d'être
Bonjour,
là.
Bonjour, merci.
Et un livre encyclopédique, un petit peu dans la famille des livres de François-Régis Gaudry, où vraiment on a de belles recettes, on a du contenu, il y a une dimension encyclopédique. C'est une bible culinaire sur la cité phocéenne, 375 pages. Il vous fallait au moins ça pour croquer la ville?
On pensait qu'il n'y aurait pas assez de... Parce qu'on est 30 du coup à avoir travaillé sur le livre. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas assez de pages. En fait,
c'est vrai qu'on n'arrête pas de tourner les pages. On en apprend à chaque fois. Bah là, Le Corbusier, par exemple. Effectivement, Le Corbusier, le ventre de l'architecte, c'est un restaurant à l'intérieur de la cité Le Corbusier, une belle cité HLM au cœur de Marseille.
Alexandre Maziak a
exactement.
Eu 3 étoiles Michelin il y a quelques années.
J'étais allé le voir là-bas, Alexandre Maziak à 3 étoiles, et qui avait fait, je me souviendrai toute ma vie, un cabillaud avec un sorbet au Campari et Pamplemousse. Voilà, oui, c'est le genre d'association.
Campari et Pamplemousse, c'est magique.
C'était étonnant. Quel est votre goût de Marseille, vous, Ezekiel? Même question qu'à mes deux camarades.
Le goût de Marseille, ce serait un goût très, très corsé, très intense. On aime à Marseille les choses qui tapent. On aime l'excès, le trop sucré, le trop marqué.
C'est possible de définir la cuisine marseillaise pour vous?
Alors c'est difficile parce que quand on a commencé, on a bossé pendant 2 ans sur le livre, on s'est dit c'est quoi la cuisine marseillaise? Et puis ça touchait un petit peu la cuisine provençale. Donc ouais. On s'est dit, voilà, qu'est-ce que la cuisine marseillaise? On préfère parler de cuisine à Marseille. Parce que finalement, la cuisine marseillaise, le répertoire culinaire, il est assez... on peut dire qu'il est assez faible en lui-même, parce qu'il y a quelques recettes comme ça, les pieds paquets par exemple. On parle de la bouillabaisse, mais elle n'est pas forcément marseillaise, elle est plus côtière. Donc on parle de cuisine à Marseille.
Alors justement, la ville est un carrefour culturel et gastronomique, hein, elle est façonnée par plusieurs influences. Et en premier lieu, les influences qui viennent d'Algérie, vous en parlez dans ce livre.
Tout à fait. Il y a une grosse communauté algérienne à Marseille, beaucoup d'Algériens aussi. Alors c'est ça qui est paradoxal, c'est que ça va être difficile pourtant de trouver un très bon couscous algérien par exemple à Marseille. Parce que c'est des choses qu'on fait beaucoup en famille. Après, il y a des petites choses comme ça, on a découvert une rue. Une toute petite rue à côté de la grande bibliothèque de Marseille, l'Alcazar, la rue de la Phare, où là, je pense que c'est le seul exemple en France. On a cette rue avec plein de petites gargotes, de petits restaurants, avec des spécialités algériennes de différentes régions.
Oui, c'est ça.
On peut goûter des têtes de mouton, beaucoup de brochettes. C'est très convivial.
Il y a beaucoup de street food à Marseille.
Il y a beaucoup de street food, avant même que la street food, elle explose un peu partout en France.
Ça s'explique aussi par rapport à la lumière, par rapport au temps.
Oui, on n'a pas envie de manger à l'intérieur.
On a envie de manger dehors et justement de capter aussi l'atmosphère marseillaise.
Et on mange debout. À Marseille, vous voyez assez souvent des gens qui mangent debout, des pizzas, même des portions de frites. Voilà, c'est assez fréquent.
Sardines à la rissa, agneau aux olives, fritures, brochettes. C'est ce qu'on peut retrouver dans ce quartier, justement, un petit peu...
Rue de la Phare, voilà.
Algérien.
Exactement.
Hein. Et alors, votre livre, il est génial parce qu'il y a des recettes, bien entendu, mais il y a plein de bonnes adresses. Hein, je le dis aux auditeurs d'Europe 1 qui voudraient aller se balader à Marseille. On en a déjà parlé ici. C'est vraiment le renouveau de la scène culinaire actuellement, qui se déroule sur les tables marseillaises. Quelques recettes marseillaises pour nos auditeurs. Les panisses, on vient d'en parler. L'enchoyade, la sauce aioli, la bourride. Qu'est-ce que c'est que la bourride?
Alors la bourride, c'est la cousine de la bouillabaisse.
Exactement. Pas avec des poissons de roche, mais avec des poissons blancs. C'est ça.
Et beaucoup plus est plus crémé.
Ouais, voilà, c'est non tomaté.
C'est ça.
Alors, c'est foncièrement très proche d'une bouillabaisse, ça pratiquement avait les mêmes poissons. Il y a la crème à la place de la tomate. Pour,
oui, c'est du water joy, quoi.
Oh, donc water joy,
alors, c'est amusant parce que vous avez parlé des pieds paquets qui une recette qui se fait avec des abats, mais on trouve d'autres recettes autour des abats à Marseille. Il n'y a pas que la cuisine lyonnaise qui met et qui célèbre le gras double, par exemple. Hein, ça fait partie de la cuisine marseillaise.
Tout à fait. Alors, c'est des recettes qu'on retrouve très, très peu, voire quasiment plus dans les restaurants, mais qui sont encore faites par des familles. Effectivement, le gras double, ça fait partie des
un bon gras double. Mais oui, contrairement à ce que son nom n'indique pas, ce n'est pas gras, le
gras
double.
Non, ce n'est pas, pas gras du tout. Mais c'est surtout des recettes, Laurent. Je pense que Marseille, quand même, est une ville ouvrière. Voilà, c'est des recettes avec des morceaux, ce qu'on peut appeler bas morceaux, donc des morceaux qui sont accessibles en prix. Donc, cette fameuse cuisine un peu familiale, cette cuisine de partage, cette cuisine qui avait beaucoup de goût.
C'est pour ça que la pizza a explosé à Marseille, parce que justement, on avait besoin de choses qui tiennent au corps.
J'allais vous en parler. Alors ça, c'est vrai. Ouais. On le savait déjà, mais c'est encore clair et net avec votre livre. Impossible de parler de Marseille sans parler de la pizza.
Exactement. Je considère que Marseille est la capitale française de la pizza. On est très fiers d'avoir inventé le camion pizza.
On va avoir le président de la Fédération des camions de pizza tout à l'heure avec nous. Olivier.
Oui, c'est vrai que c'est étonnant. On pense que la pizza est italienne, qu'il y a de bonnes pizzas en Italie, mais pas du tout. À Marseille, il y a un nombre incalculable de pizzerias et puis d'un niveau qui est absolument stratosphérique.
Alors, on dit qu'il y a plus de pizzerias à Marseille qu'à Naples.
C'est ce que vous dites dans le livre, oui, je vois.
Bon, j'ai été à Naples il n'y a pas longtemps. Bon, je pense que c'est faux parce que...
Il y en a vraiment beaucoup.
Voilà, on aime créer des légendes et des mythes à Marseille. Oui. Ça circule assez facilement.
On est un peu marseillais à Marseille.
On est un peu marseillais. Mais effectivement, c'est vrai que cette pizza comme ça, qui est plus ou moins fine, mais en tout cas cramée sur les bords, ça, c'est vraiment une particularité de la pizza marseillaise.
Elle est différente de la pizza italienne. Hein,
tout à fait.
Notamment de la pizza napolitaine.
Et puis, plus que de la mozzarella, les Marseillais aiment beaucoup l'emmental. Aiment beaucoup l'ail. Voilà, donc c'est vrai qu'elle est encore marquée. On le répète, c'est un goût qui est dans l'ADN de Marseille.
Et vous parlez de la fameuse pizza briochée rectangulaire, une madeleine de Proust pour beaucoup, qu'on trouve dans toutes les boulangeries de quartier. Donc ça, c'est amusant. Comme disait Olivier tout à l'heure, on peut vraiment grignoter et être
tout
un adepte de la street food,
c'est
comme on dit aujourd'hui.
C'est pas idéal pour perdre du poids à Marseille. On prend des trucs à manger à tous les coins de la rue.
Restez avec nous, hein, chers auditeurs d'Europe 1, parce qu'on va vous donner des adresses. Vous voulez dire quelque chose, Ezekiel?
Non, j'allais vous dire, c'est drôle, parce que ce rectangle de pizza si populaire, si brioché, c'est aussi la madeleine de Proust d'un chef 3 étoiles à Marseille, Gérald Passeda. Donc c'est rigolo comme... Ça touche tout le monde.
Gérald Passeda, le chef du Petit Nice, qui est dans votre livre et qui parle de sa fameuse soupe au pistou qu'il adore et il donne même la recette.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariette.
Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens, j'ai quelque part.
Et voilà, nous y sommes dans le sud. Avec une pensée amicale pour Michel Sardou qui sera ce soir à l'Arena à la Défense pour son dernier spectacle parisien.
Et vous ne serez pas
ce
là.
Soir et demain. Ne m'en parlez pas, je ne serai pas là. Mais j'irai peut-être me rattraper à Clermont-Ferrand, vous ne croyez pas si bien dire. Et on est dans le sud avec Ezekiel Zera qui vient nous voir avec un très beau livre, Marseille, un jour sans fin, 25 heures d'exploration culinaire pour croquer toute la ville. C'est aux éditions Hachette. On continue, tiens, Ezekiel, avec la pizza et puis l'invention du camion pizza, création 100% marseillaise. Vous le disiez.
Exactement. Dans les années 60, c'est un Jean Méritant qui était steward sur des paquebots qui s'est dit, tiens, je vais aller voir, en fait, après la guerre d'Algérie, il y a des centaines de milliers d'Algériens qui sont venus à Marseille, qui ont transité par Marseille. Donc, il est allé voir un petit peu partout dans la ville toute cette population. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au départ, les Marseillais pensaient que c'était un camion qui venait paver, en fait, la route.
Ah bon ?
Et le four n'était pas à l'intérieur, mais sur une...
Sur une remorque.
Sur une remorque.
Ah oui, comme le goudron, ouais.
Exactement. Il pensait que c'était en fait un
cantonnier.
Un cantonnier.
Ah, c'est drôle.
Et le four était justement sur la remorque parce que les premiers pizzaiolos en camion avaient peur que le four brûle le véhicule.
Sûr. Oui, c'était les débuts, donc on essuyait les plâtres. Et bien avec nous, justement, Luc Gaston Garcia, président de la Fédération nationale des artisans pizza en camion. Bonjour Luc Gaston.
Bonjour.
Bonjour.
Mes respects, président. Combien d'années au volant du camion pizza, racontez-nous?
Ah ben moi j'ai fait ma carrière, moi j'ai fait pas tout à fait 38 ans.
38 ans.
Mais 2 km seulement.
Oui, alors,
Non.
Vous étiez où,
tiens ? 2 km par jour.
Comment vous expliquez le succès du camion pizza, Luc Gaston ?
Ben le succès du camion pizza qui s'est démontré dès le premier jour, vous parlez de Jean Méritant il y a quelques minutes, qui s'est démontré dès le premier jour, ça répondait à un besoin. Dans les années 60, c'était le début, en fait, de ce besoin où les femmes commencent à travailler. Dans les couples, les deux personnes travaillent, et donc les femmes, les épouses n'ont plus autant de temps pour cuisiner, et donc on voit arriver ce fameux phénomène à Marseille, du camion à pizza, mais un petit peu de partout. C'est le début, le tout début de la street, ce qu'on appelle aujourd'hui la street food.
Voilà. Mais c'est ça. Et quelle est la pizza qui a fait votre renommée? C'était laquelle qu'on venait le plus chercher dans votre camion?
Moi, c'est la pizza à l'anchois. Fait les vieux Marseillais, c'est la pizza à l'anchois.
Et en portant, on dit pizza à Marseille.
La pizza, oui, il a bien dit. La pizza.
La pizza pour moteur. Et quel est le secret de la pâte? Parce que c'est une pâte particulière aussi.
Je pense qu'il n'y a pas de secret de pâte.
Il y a un temps de repos quand même.
La modernité a fait que la pizza s'est affinée au fil des années. La pizza n'était pas fine à l'origine. La pizza, c'est pas quelque chose de fin. La pizza, c'est quelque chose qui doit remplir les ventres. C'est un plat populaire. C'est-à-dire, c'est pas une entrée. C'est les restaurants qui ont fait de la pizza une entrée. Le besoin originel, c'est une pizza assez épaisse, un peu comme le doigt, là, un bon centimètre, et c'est quelque chose de garni, c'est quelque chose qui remplit l'estomac.
Et
voilà.
Votre camion est toujours dans les rues marseillaises, hein, vous êtes à la retraite, Luc Gaston, et on peut le voir où alors votre camion, dites-nous?
Alors, mon camion qui a été repris par mon successeur, qui était mon collaborateur, vous le trouvez le mardi, le mercredi et le vendredi matin, sur le boulevard Baille, en face de le cours Lyoto.
Ouais.
Le samedi, le dimanche, à la Pomme.
Eh bien, tout à l'heure, voilà.
Voilà.
Eh bien, on viendra. On viendra chercher une pizza en choix.
La fierté, c'est de pérenniser. Pérenniser les entreprises. C'est la plus grande fierté.
C'est ce qu'on voulait entendre. Merci, Luc Gaston Garcia, d'avoir été avec nous ce samedi matin sur Europe 1. Et bonne pizza, comme on dit.
Merci, bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée.
Ézéchiel, autre sujet concernant Marseille et que vous abordez dans ce très beau livre, Marseille est une ville qui bouge beaucoup. Yves Condebord aime à dire que c'est un peu Paris 11.
Ah, hein, ce qui se passe à Marseille aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu paraître il y a maintenant une quinzaine d'années à Paris 11e arrondissement. Voilà, c'est des tables qui se mettent les unes à côté des autres, des tables
une nouvelle génération de jeunes chefs.
Et je pense qu'il est super intéressante parce qu'ils ont la chance d'avoir un territoire et des produits d'exception pour s'exprimer.
Il y a Terre de Mars qui est génial aussi dans les quartiers nord, qui est un maraîcher qui travaille comme ça aussi en circuit court. Quelques adresses, Ézéchiel, pour les auditeurs d'Europe 1 quand ils vont aller à Marseille et qu'il ne faut pas rater de bonnes tables. De la relève, justement. Il y a Laetitia Viss, on en a parlé ici, elle est venue nous voir.
J'allais dire, justement, on parle des chefs, il y a les chefs feux également. Et je pense qu'en proportion, je pense que Marseille a plus de chefs feux que de chefs par rapport aux autres villes françaises, aux autres grandes villes françaises.
Absolument.
Il y a une chef, moi, que j'adore, qui est bretonne. Elle a un parcours très particulier. Elle s'appelle Oregane. Et elle a à la fois un CAP de cuisine et un CAP de boucher. Elle a ouvert un restaurant qui s'appelle Bouillon, où elle fait que de la viande cuisinée, créative.
J'y suis allé pour ma revue, absolument. On a fait un dossier spécial jeune chef marseillaise dans les petits plats. Oui.
Elle est pas marseillaise, mais elle cuisine avec un maillot de l'OM. Elle fait une cuisine absolument sublime. C'est un tout petit restaurant, vraiment. Tout est un peu bordélique.
Avec une belle carte des vins aussi.
Avec une très belle carte des vins. Et puis des illustrations un peu partout affichées sur les murs.
Il y a Sarah Chouniette-Strudel qui a Regain aussi.
Ouais, c'est une cantine exceptionnelle.
Regain, c'est exceptionnel. Ouais. Franchement, un rapport qualité-prix incroyable. Bien, et puis de bonnes charcuteries. Il y a aussi Marie Caffarel, la maison Payani. Hein, une jeune fille comme ça, charcutière, avec comment ça s'appelle les caillettes, voilà. Caillettes, avec des caillettes exceptionnelles. Voilà,
mais vous avez aussi Catherine, Marie Dijon, elles sont associées à trois filles, c'est super intéressant. Et après, il ne faut pas oublier, voilà, l'idéal, on en a parlé un peu tout à l'heure, l'idéal de Julia Samuel, qui est une épicerie aussi en plein quartier du Maghreb.
Début de la rue d'Aubagne.
Qui est fantastique. Ouais. Oui. Et moi, j'adore une adresse, c'est comme une petite guinguette qui est un peu perchée sur la hauteur, c'est Sépia. Oui, voilà, le dimanche soir, j'aime bien y aller. C'est ouvert le dimanche soir et on a la vue sur tout le port de Marseille, c'est
la bouillabaisse traditionnelle chez Michel, évidemment, en face du cercle
chez
des
Michel
majeurs.
Et une bonne pizza chez Étienne, dans le quartier du Panier aussi. Ouais.
Hein. Exactement, c'est l'adresse phare pour manger avec
la
le
pizza.
Prince.
La pizza.
Avec le prince de Monaco qui est parfois là d'ailleurs à côté, donc méfiez-vous. Voilà.
Ah, bah écoutez, son Altesse, Monseigneur.
Marseille bouge beaucoup et c'est très intéressant ce qui s'y passe en ce moment.
Merci Ézéchiel Zera. Votre livre, Marseille, un jour sans fin, c'est passionnant, c'est gourmand. C'est aux éditions Hachette Cuisine. Merci d'avoir été avec nous ce samedi matin au studio Coluche à Europe 1. C'est l'heure de jouer, chers auditeurs, avec notre bruit de cuisine. Nous vous offrons trois produits de la gamme petit déjeuner de la marque française Muse. Il y a un grille-pain et une bouilloire au look vintage, disposant d'un vieux mètres hein, pour choisir la dorure de vos toasts et vérifier la bonne température de l'eau.
Important.
Ainsi qu'une théière permettant de sélectionner la température en fonction du thé. Vous pouvez les voir sur muse-europe.com. Et nous sommes avec Muriel au téléphone. Bonjour Muriel.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où Muriel ?
Je vous appelle alors, d'un petit village que vous connaissez peut-être, puisque vous n'étiez pas loin il y a 2 ans, qui s'appelle Saint-Véran, en Bourgogne du Sud, tout à côté de Saint-Amour.
Mais bien sûr, j'étais en tournage à Saint-Amour pour mes émissions, absolument, et Saint-Véran est à côté. Un vignoble que vous connaissez bien,
blancs,
monsieur Pouls.
Un peu trop méconnu, les très beaux vins blancs de Saint-Véran.
Merci d'en parler, mon mari, et on est producteur d'ailleurs.
Soyez bienvenus.
Comment s'appelle la maison, dites-le.
Alors, c'est le domaine Jean Curial Saint-Véran.
Domaine Jean Curial à Saint-Véran.
Je le note.
Et qu'est-ce qu'on mange chez vous ce samedi midi, Muriel ?
Alors, à la demande de ma fille, nous allons manger des spaghettis à la grémolata.
On est en Italie. Tiens, on sera en Italie tout à l'heure avec Stéphane Fraisse, parce qu'il triomphe sur les planches avec la pièce Le Cercle des Poètes Disparus. Et on fera un vitello tonnato avec lui. Muriel, le bruit de cuisine.
Alors.
Attendez, écoutez-le.
Oui.
Je sais que vous l'avez écouté déjà, mais réécoutez-le. Bam.
Pas évident, je serais tentée de dire qu'il s'agit d'une découpe.
Oui, mais de quoi ?
Quelque chose avec le couteau. Vous avez parlé de saison, moi je pensais au poireau peut-être, à l'émincage d'un poireau.
Oh, c'est un poireau avec du bois alors, hein, parce qu'il est costaud là.
Ouais, c'est un peu plus dur que ça a priori. Hein.
C'est plus dur que ça et le geste est plus long, c'est peut-être comme peler à vif quelque chose de gros. Je ne peux pas vous en dire plus, Muriel, mais vous envoie le livre d'Ezekiel Zera à Marseille, Un jour sans fin. C'est une balade, une carte postale gourmande comme on les aime. Vous allez vous régaler, on vous l'envoie chez vous à Saint-Véran.
Je suis ravie, merci beaucoup.
Merci Muriel.
Merci pour votre émission.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi sur Europe 1, toujours avec mes bons vivants du jour, Olivier Pouls et Yves.
Présent.
Camp de bord. Alors, vous le savez ici, chers auditeurs, on aime cuisiner sans gaspiller. Et puis, on repère aussi pour vous les initiatives intelligentes qui nous aident à faire les courses. Est-ce que vous connaissez la dernière, Yves et Olivier ?
J'imagine que non, puisque c'est la dernière.
Oui, c'est la dernière. Alors, vous auriez pu la voir dans la presse.
J'en ai entendu parler.
Oui.
Et c'est vrai que c'est merveilleux, je trouve.
Autour de l'Antigaspi, un entrepreneur breton vient d'être élu recruteur de l'année par le journal Ouest France. Il a fait une levée de fonds d'1,4 million d'euros pour implanter ses supérettes Antigaspi partout en France. On adore son idée à la table des bons vivants. On la soutient et il est en ligne avec nous. C'est Karim Vincent Viry. Bonjour Karim.
Bonjour Laurent.
Fondateur de Finiterest 29, j'ai bien prononcé ?
C'est bien ça.
Alors votre projet, ce sont des supérettes solidaires et sociales un peu partout. Vous voulez convertir la France à l'anti-gaspi, Karim ?
Je veux surtout convertir la France à manger des fruits et légumes frais. Parce que vous savez Laurent, tous les 10 ans, on déconsomme de 10% de légumes en France. Et donc j'essaie de lutter contre la malbouffe.
Karim, quelle est votre volonté alors ? Racontez-nous avec Finiterest.
Tout simplement, Laurent, vous savez qu'en Bretagne, quand on a lancé les cahiers des charges il y a 30 ans en grande distribution pour réglementer les échanges entre producteurs et grande distribution, on a choisi des légumes par des critères esthétiques. Malheureusement, quand on applique ces critères esthétiques, en Bretagne, chaque année, on jette plus de 200 000 tonnes de légumes.
200 000 tonnes.
C'est la folie.
Juste parce que la pomme, elle n'a pas la bonne gueule.
Oui, parce qu'il y a une petite tache, une petite meurtrissure.
Donc ça veut dire qu'on jette un panier Finiterest toutes les 7 secondes à la poubelle.
Un panier Finiterest toutes les 7 secondes à la poubelle. Vous avez déjà ouvert 70 points de vente, Karim, surtout en Bretagne pour l'instant. Quels sont les produits anti-gaspi que vous proposez le plus ?
Du chou-fleur, des légumes anciens, du poireau, des carottes, des pommes de terre, des pommes, des poires, des kiwis. Et puis on ne fait pas que du fruits et légumes parce qu'il y a un an et demi, on a lancé un concept qui est innovant en France. On fait du poisson anti-gaspi parce que vous savez qu'en poisson, on est encore plus débile qu'en fruits et légumes puisqu'on jette 50% du poisson quand on le pêche.
Mais c'est de la folie. Voilà. Donc,
mais au motif de quoi qu'il est pareil, il n'est pas bon ?
Simplement parce qu'il y a 30 ans, la restauration a décidé qu'un pavé de poisson devait faire un certain grammage. Et pour découper ce pavé de poisson, il faut le découper la partie la plus proche de la tête. Et tout ce qui se rapproche de la queue, ça part à la poubelle. À Lorient, chaque jour, c'est 10 tonnes de poisson qui partent à la poubelle. Nous, on récupère tous ces petits filets, on les met dans une poche inodore et on vend ça 3 euros toute l'année pour 250 grammes de poisson frais.
C'est édifiant. Un petit mot sur les les prix, justement, Karim Vincent Viry, c'est intéressant. Les légumes de saison, racontez-nous, alors, combien ça coûte?
Nous, en Bretagne, on vend notre panier de légumes de plus de 6 kilos à 5,99 €, donc ça fait moins d'un euro le kilo.
Et qu'on ne dise pas que c'est trop
voilà,
cher. Hein.
Voilà, on ne peut pas dire que c'est trop cher, là. 5 à 7 kilos de légumes de saison, moins de 6 euros. Pareil pour les fruits, hein, c'est abordable.
Ouais, pour les fruits, c'est exactement la même, même. Les fruits sont un tout petit peu plus chers parce que forcément, comme ce sont des arbres, c'est plus coûteux à produire. Mais on fait un panier de 4 kilos de fruits pour 6,99 €.
Eh ben bravo. Finité reste 29. Merci Karim Vincent Viry d'avoir été avec nous.
Merci à vous Laurent. Et puis devenez notre parrain, ça nous ferait super plaisir.
Ah bah écoutez, on peut en discuter avec joie.
Génial.
Absolument. Félicitations.
Ouais, bravo. Merci bravo. Beaucoup messieurs.
Yves,
merci
aujourd'hui, vous allez nous raconter la création d'un de vos plats signatures. Vous avez choisi une recette de saison, évidemment, votre salade pamplemousse asperge. Alors ça, c'est un grand plat que tout le monde n'a pas eu la chance de goûter. Ça fait les grandes heures de votre régalade. Un plat qui fait le trait d'union entre l'hiver et le printemps, quoi.
Oui, c'est la fin de la saison des pamplemousses. C'est le début de la saison des asperges. Et là, à l'époque, il faut remettre ça dans le contexte des années 90. Hein. C'était se dire, on va amener un peu, voilà, revisiter, entre guillemets, un plat classique. Alors, je m'étais appuyé à l'époque sur le grand classique qui est asperge sauce hollandaise.
Alors, et ça, c'est quand même bon. Hein.
Oui, la sauce hollandaise, c'est un peu comme une béarnaise, mais avec du citron.
Voilà, c'est en fin de compte que quand on déguste ce plat-là, dans l'hollandaise, on ressent le crémeux et l'onctuosité qui est dû à l'œuf et qui est dû au beurre. On a de l'acidité parce qu'on rajoute toujours un petit jus de citron comme dans une sauce mousseline pour donner du peps. Et on a toujours aussi ce côté très poivré, parce que dans la réduction de base, on met du poivre concassé.
Alors, comment vous avez modernisé ça?
Alors, c'est une méthode, je pense, c'est une méthode qui est appliquée par tous les particuliers qui veulent faire de la création.
Écoutez bien, chers auditeurs d'Europe 1.
C'est prendre les saveurs d'un grand classique. Donc là, j'avais de l'acidité, là, j'avais du poivre et de l'onctuosité. Et j'ai dit, ces trois saveurs, je vais les conserver avec l'asperge, et puis étant donné que ce mariage fonctionne à perfection, mais je vais modifier les ingrédients de base. Donc, pour l'acidité, je suis allé chercher le pamplemousse, qui m'a même rajouté une petite amertume.
Oui.
Pour le poivré, je suis allé apprendre de la roquette poivrée.
Ah oui, c'est vrai qu'il est poivré, cette salade.
Qui est puissant, qui amène beaucoup de peps dans la recette. Et après, pour la rondeur et l'onctuosité, j'ai fait un œuf moulé et j'ai rajouté ces trois saveurs avec mon asperge à peine salée.
Mais elle est cuite, l'asperge?
Alors, l'asperge cuite de façon classique, soit vous la cuisez à la vapeur, soit vous la cuisez dans un bain, ce qu'on appelle en anglaise, dans un bain d'eau salée.
Bouillon de salée,
voilà. Surtout, on la laisse, comment dire, al dente.
Ouais.
Et après, on va se la recouper en morceaux. On va mettre des quartiers de pamplemousse, de la roquette, l'œuf posé dessus, l'œuf moulé. On va rajouter juste un peu de fruité avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Surtout, on ne remet pas d'acide, pas de vinaigre, pas de moutarde. Et on va le servir, on va juste couper l'œuf. Il va y avoir le coulant du jaune qui va se poser dessus, qui va enrober
notre saveur. Il y a de l'onctuosité.
Et quand on va le manger, si on ferme les yeux, on peut pratiquement croire qu'on mange une asperge sauce hollandaise.
Asperge blanche ou verte, tous les deux, en général?
Alors, début de saison, là, on n'est que sur les asperges vertes. Mais ça peut marcher.
Mais après, ça
dans
peut
un
aller
mois,
sur la blanche.
Un mois et demi, sur la blanche. Mais ça, c'est important à dire aux auditeurs, de s'appuyer sur les traditionnels et d'apporter cette touche de revisité un peu moderne.
La recette vous attend, chers auditeurs, sur europe1.fr.